Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Couvésien, bonjour.
Bonjour.
De quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Un livre.
C'est magnifique. Tu as compris le concept de l'émission ?
Non, d'un roman de Sylvie Germain. Donc, notamment, enfin, de son roman intitulé Magnus. Et donc, pour ce roman, elle a reçu un prix, le prix Goncourt des lycéens 2005.
Est-ce que le mot auteur convient à décrire ce qui vous occupe depuis toutes ces années ?
Oui, c'est pas facile de trouver le mot juste. Je suis romancière, mais en même temps, j'écris aussi des essais, donc c'est écrivain. Il y a le mot auteur, c'est pas évident de trouver un terme auquel me satisfait complètement, en fait.
Qu'est-ce qui est satisfaisant dans le mot auteur pour décrire ce que vous faites ?
C'est-à-dire, auteur, ça renvoie, il y a une sorte de gravité vraiment dans auteur. Je sais pas, ça renvoie à quelqu'un qui revendique une sorte de souveraineté. Il y en a une, bien évidemment. Une fois qu'on a écrit un livre, il faut aussi l'assumer, raté ou pas, ou réussi. On est l'auteur d'un livre, auteur d'un acte. Mais en même temps, parfois, je trouve qu'on lui met trop de sorte de sérieux qui me gêne un peu, voilà.
Et donc, je vais d'abord vous parler de l'auteur, hein, Sylvie Germain, qui est docteur en philosophie, mais on va pas trop se casser la tête, hein, elle est vraiment très concrète dans ce qu'elle écrit, hein, et elle a écrit plusieurs romans qui ont reçu beaucoup de prix, et donc celui-ci a été salué par les lycéens, et ce qui avait retenu mon attention, donc j'ai souhaité vous le présenter. Et donc dans ce livre, elle parle d'un garçon qui est né juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui va, à la sortie de la guerre, avoir des blancs dans sa mémoire. Et il va découvrir petit à petit que son papa, en fait, était médecin dans un camp de concentration. Et un peu plus tard, il va découvrir qu'en fait, c'était même pas son père biologique, mais un père adoptif. Et donc, il va essayer de reconstruire sa vie à partir de ses souvenirs, dans un isolement complet. Et dans ce livre, en fait, l'auteur Sylvie Germain fait des références littéraires, et notamment Juan Rulfo, Pedro Páramo, qui est une œuvre magistrale. Et donc, il va aller au Mexique, où son père s'était réfugié, et où il a fait croire qu'il s'était suicidé. Et donc, il y aura un dénouement, mais catastrophique. Mais l'écriture est magnifique, et j'ai souhaité vous faire découvrir ce roman.
It's the same face every night.
Un premier extrait.
Oui.
Qui se situe en fait dès le début du livre et le chapitre ça s'appelle Ouverture. J'espère que ma lecture sera à la hauteur de la qualité littéraire. Je vais essayer. D'un éclat de météorite, on peut extraire quelques menus secrets concernant l'état originel de l'univers. D'un fragment d'os, on peut déduire la structure et l'aspect d'un animal préhistorique, d'un fossile végétal, l'ancienne présence d'une flore luxuriante dans une région à présent désertique. L'immémorial est pailleté de traces infimes et têtues. D'un lambeau de papyrus ou d'un morceau de poterie, on peut remonter vers une civilisation disparue depuis des millénaires. À partir de la racine d'un mot, on peut rayonner à travers une constellation de vocables et de sens. Les restes, les noyaux, gardent toujours un infranchible grain de vigueur. Dans tous les cas, l'imagination et l'intuition sont requises pour aider à dénouer les énigmes. D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombé de mensonges, puis gauchi par le temps, hanté d'incertitudes, et un jour soudainement porté à incandescence, quelle histoire peut-on écrire ? Une esquisse de portrait, un récit en désordre, ponctué de blanc, de trous, scandé d'échos, et à la fin, s'effrangeant. Tant pis pour le désordre. La chronologie d'une vie humaine n'est jamais aussi linéaire qu'on le croit. Quant au blanc, au creux, aux échos et aux franges, cela fait partie intégrante de toute écriture, car de toute mémoire. Les mots d'un livre ne forment pas davantage un bloc que les jours d'une vie humaine, aussi abondants soient ces mots et ces jours. Ils dessinent juste un archipel, de phrases, de suggestions, de possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur ni paisible, une rumeur y chuchote tout bas, continuellement. Une rumeur montée des confins du passé pour se mêler à celle affluant de toutes parts du présent. Un vent de voix, une polyphonie de souffle. Et chacun, la voix d'un souffleur murmure en sourdine incognito, voix apocryphe qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même pour peu qu'on tende l'oreille. Écrire, c'est descendre dans la fosse du souffleur pour apprendre à écouter la langue respirer là où elle se tait, entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots.
It hurts me so.
Alors, deuxième extrait. En ce trou temporel, un petit garçon, sitôt mort, est remis brutalement au monde, jeté tout nu dans un cratère du monde. Il ne sait plus rien de lui-même. Il confond son corps et celui de l'ourson aux yeux de renoncule. Il ne sait plus rien de l'humanité. Il confond la voix humaine et le fracas des explosions, des avalanches de pierres, de poutres et de métal, de la forêt de flammes en marche houleuse à travers la ville rasée. Des vagissements des mourants et des hurlements des survivants frappés de démence. Il ne sait plus rien de sa langue, les mots ne sont plus que des sons foulés en vrac dans le pressoir fournaise de la guerre. Il en coule un jus gluant, empestant le sang et la chair carbonisée, le soufre, le gaz, la fumée, un jus graisseux et noir fileté d'étincelantes saignées jaunes et écarlates. Hambourg à l'aube suivant Gomorre. L'enfant renouveau-né, accouché seul dans les ruines, accouché par la guerre, confond la beauté et l'horreur, la folie et la vie, le grand guignol et la mort. Il part comme un ballot poussé par le vent, emporté dans le flot du troupeau des survivants, fuyant la belle ville baignée d'eau châtiée par les crimes commis par le Reich. Quand les gens se soucient enfin de ce gamin somnambule, à l'évidence perdu ou orphelin, celui-ci ne peut répondre à aucune question qu'on lui pose. On le croit sourd ou bien idiot. Quelqu'un a l'idée de dénouer le mouchoir roussi que son ours porte autour du cou. Un nom y est brodé en fil de coton multicolore, Magnus. C'est le nom de l'ourson, celui du père de l'enfant ou de l'enfant lui-même. Faute de mieux, on surnomme ainsi le petit sourd muet. Avec ce nom d'emprunt, il est placé dans un centre, en compagnie d'autres enfants, à l'abandon dans l'attente de familles d'accueil ou d'adoption. Après Gomorre, au seuil de la lande, aux marges de l'enfer. Une femme se présente dans le centre. Elle passe les enfants en revue. Une femme encore jeune, élégante, mais le visage durci par un deuil récent. L'histoire de ce petit garçon, non pas sourd-muet, mais vierge de tout souvenir, l'intéresse. Elle l'observe longuement, le trouve joli, placide et le devine intelligent. C'est un garçonnet bouclé, aux yeux noisettes, au crâne en parfaite conformité avec les normes ariennes, au sexe non circoncis. Sain de corps et de race. Quant à l'esprit, il est nu, page gommée, prête à être réécrite. La femme se chargera de la blanchir à fond. Avant d'y écrire à sa guise, elle dispose d'un texte de rechange, un texte de revanche sur la mort.
Big lies, big
une langue avec des mots choisis un peu complexes, non ?
Ah oui, totalement complexe. Oui, parfois il faut y relire 2-3 fois pour appréhender chaque phrase, chaque mot et même l'intégralité de chaque passage.
Des mots avec les mains. En parlant de mots cailloux, là on entend des mots capables de se planter au milieu d'une route. Il se trouve que les deux décisions importantes, enfin certaines des décisions importantes, sont prises après avoir entendu des mots. Paul décide de prendre le chemin de la prêtrise après avoir entendu ce mot Kroya. Et d'une certaine manière, Viviane reprend la route de la maternité après avoir entendu cette insulte faite à une mère juive abandonnant son enfant. Est-ce que vous diriez que votre rapport à la langue a été de cet ordre du sursaut aussi ? Ces deux êtres, ces deux personnages que vous mettez en scène sursautent après un usage malencontreux, violent d'un mot. Est-ce que votre rapport à la langue est de cet ordre-là, de l'ordre du sursaut ?
Parfois oui, mais là c'est aussi l'occasion de souligner, pour reprendre l'image, la métaphore qu'on avait prise tout à l'heure, du caillou, des pierres et des mots. Ça peut être dans le plus beau sens qui soit, comme ça peut être la pierre de lapidation. C'est avec des pierres, des cailloux qu'on lapide. Et là, en l'occurrence, c'est ça, quand c'est des mots infamants. Et c'est terrible, les mots, on le sait très bien. On le voit d'ailleurs en ce moment avec ce qui s'est passé récemment à l'égard de Madame Toubira. Moi, je trouve que c'est quand même encore plus répugnant qu'on ne peut le dire et dangereux. Ça commence par des mots. Ça se banalise et au bout d'un moment, des mots, on passe aux actes. Hein. Et on jette des mots cailloux et après on jette vraiment des cailloux. Donc il faut rester quand même extrêmement vigilant. Alors ceci dit, il y a toute forme de réaction par rapport aux mots. Oui, parce que vous dites de sursaut. Il y a des mots qui peuvent nous mettre à l'arrêt. Et ça, c'est le génie de véritable poète. C'est que... Sinon, il a raté sa poésie, ou c'est plus de la poésie. C'est que, je sais pas, la confrontation inattendue de deux mots, qui peuvent être deux mots très simples, d'une grande banalité. C'est pas la préciosité qui fait la poésie, pas du tout. C'est ce qui nous déconcerte. Des rencontres de mots, des alliances comme ça, de mots complètement imprévus. Et comme un frottement, on a encore dans la pierre, là, pour le coup, le silex. Et dont la rencontre et le frottement provoquent une sorte d'étincelle, de quelque chose d'étrange. Je pense évidemment à Paul Celan, particulièrement un poète comme lui. Mais on pourra en citer beaucoup d'autres. Et le propre de la poésie, le pourquoi j'aime tellement la poésie, c'est lié à ça justement, à être surpris. Parce que les mots, c'est les mots de tous les jours qu'on utilise, surtout pour les romans, on utilise, voilà, les mots, on va puiser dans un fond commun, et c'est ça en même temps qui est fantastique. Et avec ça, on essaye de faire un peu de neuf. Les fameux mots de la tribune, on parlait Mallarmé, on les reprend et on essaye de faire un peu de neuf, de les agencer autrement. Et parfois, un mot nous surprend, oui. Un mot peut provoquer, ou un mot entendu, bien évidemment, pour le meilleur, pour le pire. J'écris, ça va venir assez spontanément après parfois des heures de rêverie, d'attente, et puis ça vient par une sorte de bouffée, comme ça, j'écris, et puis les mots appellent les mots, provoquent d'autres choses, d'autres idées, puis parfois, par moi-même, un mot me soit fait sursauter, soit je bute contre. C'est aussi, j'en avais parlé dans un autre livre, les mots scrupules. Parce que les scrupules, c'est à nouveau un petit caillou. À l'origine, le scrupule, le scrupulum était un petit caillou. Ces petits graviers qui rentraient dans les sandales des soldats romains, et évidemment, c'était très désagréable pour avancer. Ça empêche d'avancer. Ça a perdu complètement son sens concret pour ne garder que le sens moral, psychologique. Quand on a des scrupules, on s'arrête un petit peu, on essaye de réfléchir. Et donc, parfois, il y a les mots, ils se transforment en scrupules ou en quelque chose contre lequel je bute. Le mot n'est plus évident. Voilà. Le mot me pose question. C'est quand même mon boulot aussi d'être en dialogue avec les mots.
Et alors là, c'est bon signe ou c'est mauvais signe quand ça pose question ?
C'est signe de quelque chose.
C'est signe de quelque chose.
De quoi, je ne sais pas. Parfois, c'est très mauvais signe. Parfois, je me casse la gueule sur un mot. On peut se plainter sur un mot. Parfois, on saute par-dessus le mot. On danse avec le mot. On peut tout faire avec les mots. Tout.
I don't want to stay at your party. I don't want to talk with your friends. I don't wanna vote for your president. I just wanna be your tugboat captain.
It's the place I like to be. It's the place I like to be.
Thank you.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ?
Alors, le thème de la mémoire. Comment une mémoire peut être aussi lacunaire et quelle est sa volonté de vouloir reconstituer tous les épisodes de sa vie ? Comment lui qui est tellement marqué parce qu'il a vécu jusqu'à 5, 6, 7 ans et puis après par cette paternité si pesante, comment il a essayé de se reconstruire ? Et puis surtout la qualité littéraire, c'est superbement écrit à mes yeux.
Couvésien, merci.
Merci aussi à toi.
Thank you.